ensemble. Il est 10h à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 9h, temps universel. Informations, le journal avec vous, Diane Berger. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et tous. François Bayrou tente de faire du neuf avec du vieux. Le Premier ministre français a choisi plusieurs poids lourds des précédents gouvernements pour son équipe, sans convaincre la gauche qui lui reproche notamment trop de concessions à l'extrême droite. Au sommaire de ce journal également, François Compaoré bloqué en Côte d'Ivoire, le frère de l'ancien président burkinabé, victime d'une situation ubuesque selon son avocat. Aux États-Unis, un allié de Donald Trump visé par un rapport parlementaire explosif, Matt Gaetz, est accusé d'avoir dépensé des milliers de dollars en échange de drogue et de relations sexuelles, notamment avec une mineure. Et puis, reportage à la fin de ce journal à Rome, où les travaux de la fontaine de Trevi sont finis. Le célèbre lieu touristique a été réaménagé pour mieux gérer les touristes, très nombreux à se presser pour voir le lieu rendu iconique par le film La Dolce Vita. La valse des passations de pouvoir a commencé ce matin à Paris. Les nouveaux ministres français prennent leurs fonctions après leur nomination hier soir. Parmi eux, des poids lourds, dont Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne à l'éducation, Manuel Valls aux Outre-mer. Et une question, vont-ils réussir à garder longtemps leur poste? Car à gauche, le chef des socialistes, Olivier Faure, estime que le Premier ministre n'a respecté aucune des conditions posées par son parti pour éviter une censure. Malgré tout, François Bayrou a affiché sa confiance hier soir lors d'une longue interview chez nos confrères de BFM TV. Un entretien qui n'a pas été sans difficulté, Aurélien de Vernoy.
J'ai toujours pensé qu'on ne me demanderait d'occuper cette fonction que quand ça irait très mal.
François Bayrou aime naviguer dans la tempête et c'est selon lui ce qui l'a aidé à convaincre Emmanuel Macron de le nommer. Et un capitaine de navire doit faire des choix selon lui, même si cela ne convient guère à son équipage. En l'état, la droite républicaine, dont le patron Laurent Wauquiez, s'est plaint d'une mauvaise représentativité au gouvernement.
Je ne connais aucun parti content, mais c'est pas le problème du gouvernement.
François Bayrou tout aussi inflexible face aux socialistes qui demandent toujours la suspension de la réforme des retraites en échange d'une non-censure.
Dans quel monde vivent-ils ? La France est observée, scrutée, et si les notes ne sont pas bonnes, alors les taux d'intérêt explosent.
Mais le chef du gouvernement vacille quand le cas de Xavier Bertrand est abordé. Non, jure-t-il, il n'a pas cédé au Rassemblement national en refusant de nommer le président des Hauts-de-France au ministère de la Justice.
J'ai vu des journaux écrire que Madame Le Pen m'avait appelé au téléphone, c'est pas vrai.
Mais il reconnaît devoir prendre en compte les électeurs de Marine Le Pen et multiplie les déclarations leur sens.
La grande majorité des Français pensent qu'ils sont dans un pays d'insécurité.
Tout en affirmant ne pas vouloir d'une nouvelle loi immigration. Déroutant, souvent, François Bayrou affirmant qu'il ne craint pas la censure, tout en annonçant qu'il ne demandera pas un vote de confiance et qu'il utilisera si besoin le passage en force via le 49-3 en cas de blocage sur le budget.
On le disait, il y a dans ce nouveau gouvernement beaucoup de noms déjà bien identifiés de la vie politique française. Mais parmi les nominations, on compte aussi une figure moins connue. Au ministère de l'économie, François Bayrou a nommé Éric Lombard, ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Une nomination qui ne réjouit pas Denis Gravouille, membre de la direction du syndicat CGT.
Éric Lombard, on le connaît pas. C'est quelqu'un qui est connu des milieux financiers parce qu'il était de la Caisse des dépôts et consignations. C'est la même orthodoxie financière qui semble présider à la politique du gouvernement. Et on peut s'attendre à ce qu'on essaye de nous repasser le même genre de projet de loi de finances que celui qui avait été censuré. Peut-être que ce coup-ci, le Rassemblement national n'aura pas le courage de le censurer une deuxième fois. Et on aura à nouveau des économies sur le dos des services publics et sur le dos de la transition écologique, par exemple. Mais nous le saurons quand M. Bayrou fera sa déclaration de politique générale.
Le syndicaliste Denis Gravouille, il répondait à Claire Fage. Parmi les noms qui rejoignent le gouvernement, il y a donc celui de Manuel Valls à l'Outre-mer. Il va donc devoir prendre en main la situation humanitaire à Mayotte. Autre dossier sur la table du ministre, la Nouvelle-Calédonie, l'archipel français du Pacifique en pleine crise politique depuis le mois de mai. Et nous l'avons appris il y a quelques minutes, le gouvernement collégial local dirigé par un indépendantiste chute en raison de la démission des membre du mouvement Calédonie Ensemble, le parti de centre-droit proche des macronistes. Après l'exil, la route du retour. Selon le ministre turc de l'Intérieur, plus de 25 000 réfugiés syriens sont rentrés dans leur pays d'origine au cours des 15 derniers jours, conséquence directe de la chute de Bachar al-Assad. Les chrétiens de Syrie, eux, sont sur le qui-vive. Le mouvement islamiste au pouvoir, Ayat Tahrir al-Sham, a promis de respecter les minorités. Mais un sapin de Noël a été brûlé, ce qui a provoqué des manifestations de colère à Damas. François Compaoré bloqué en Côte d'Ivoire. Le frère de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, ne peut pas rentrer en France où il vit pourtant, au motif qu'il ne parvient pas à faire renouveler son visa qui est arrivé à expiration. Écoutez les explications de l'un de ses avocats, Pierre-Olivier Sûr.
Il est libre en Côte d'Ivoire, il est heureux en Côte d'Ivoire, j'allais même dire qu'il est joyeux en Côte d'Ivoire au moment de ses fêtes de Noël avec son épouse. Le problème est le suivant. Il n'obtient pas le visa pour rentrer en France pour des raisons de technique administrative ubuesque, comme il en arrive souvent en l'état. Qu'il y a eu une procédure d'extradition qui a été menée à la demande du Burkina Faso et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a mis en échec cette procédure. À la suite de cela, la notice rouge qui accompagnait le mandat d'arrêt international a été effacée partout, sauf, semble-t-il, en Allemagne. Et il semble que de l'Allemagne, il y ait donc cette red notice, ce feu rouge qui bloque en ce moment le système de l'administration qui devrait permettre l'obtention du visa. C'est un petit peu ubuesque, mais ce n'est pas dramatique.
C'est l'un des derniers gestes de Joe Biden en tant que président des États-Unis. Le chef d'État sortant a commué la peine de 37 condamnés à mort. Leur exécution est donc remplacée par des peines de prison à vie. Un tel chiffre, c'est du jamais vu selon les organisations de défense des droits de l'homme qui redoutent une hausse des exécutions avec le retour au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump. L'un des proches du milliardaire américain, visé par un rapport parlementaire accablant à Washington, Matt Gaetz, qui a failli être nommé ministre de la Justice, est en effet accusé d'avoir eu des relations sexuelles tarifées, notamment avec une mineure, Lubna Anaki.
À en croire les médias américains, c'est un rapport qui devrait faire l'effet d'une bombe. Après plus de 2 ans d'enquête et d'audition, la commission d'éthique de la Chambre des représentants a dévoilé ses conclusions autour de l'ancien élu trumpiste Matt Gaetz. Dans le document de 37 pages, la commission affirme que l'ancien représentant de Floride a, je cite, payé des femmes à hauteur de dizaines de milliers de dollars en échange de relations sexuelles ou de drogue. Et toujours selon ce rapport, l'une de ces femmes était une mineure de 17 ans. Des révélations démenties par Matt Gaetz qui, tout en reconnaissant avoir, je cite, « trop fait la fête, couché, bu et fumé à un moment de sa vie, ni avoir eu toute relation sexuelle avec des mineurs ». Il assure être victime d'un coup politique, lui qui avait un temps été désigné par Donald Trump comme prochain ministre de la Justice avant de devoir y renoncer. Ses avocats ont d'ailleurs déposé plainte auprès d'un tribunal fédéral pour bloquer toute publication de ce rapport parlementaire. Il est peu probable que ces révélations aient des conséquences judiciaires pour Matt Gaetz, d'autant plus que le département de la justice avait déjà enquêté, mais avait préféré ne pas donner de suite faute de preuves suffisantes. Lubna Anaki, New York, RFI.
Enfin, un cadeau de Noël pour les touristes de passage à Rome, c'est la fin des travaux à la célèbre fontaine de Trevi. L'accès au site emblématique de la ville a été repensé pour mieux gérer le flux de visiteurs, Anne Lenier.
Sous un vent glacial, une foule bigarrée découvre ou redécouvre cette majestueuse fontaine baroque créée sur un projet de l'architecte Nicolas Salvi et achevée en 1762. Les travaux ont permis de retirer les incrustations de calcaire, les mauvaises herbes et toute trace de dégradation. Fabienne et Gérard viennent de Corse pour passer les fêtes de Noël à Rome.
Moi, je connaissais la fontaine qui était moins propre et là, du coup, elle est magnifique. Elle est resplendissante.
Ah oui, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait un travail extraordinaire. On dirait qu'elle a été fabriquée hier.
La fontaine, rendue encore plus célèbre par la Dolce Vita de Fellini, était visitée jusqu'à présent par plus de 10 000 personnes chaque jour. Désormais, l'accès sera limité à 400 visiteurs à la fois, vient d'annoncer le maire de la capitale, Roberto Gualtieri.
Il y aura une file d'attente ordonnée, mais pas de limite de temps. L'objectif est que tous profitent pleinement de la fontaine, sans confusion.
Mais le vrai défi sera de faire faire respecter la file d'attente et le décorum autour de la fontaine de Trévi. Anne Lenire, Rome, RFI.
Il est maintenant quasiment 10h10 ici à Paris, 9h10 en temps universel. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. C'est l'heure de Priorité Santé avec Caroline Paré.